Alors, en 58 séquences, j'ai essayé de raconter la vie d'un jeune homme qui habitait cette ville, précisément. Au début, c'était qu'une silhouette, et j'en ai fait un personnage, c'est-à-dire que c'est un roman. Il ne faut pas aller chercher des trucs trop précis et trop réels. C'est vraiment un roman. J'ai dû me mettre à sa place par moment. D'ailleurs, ça parle au « je » et au « il », en prenant une certaine distance. En 58 séquences, je ne vais pas aller lire les 58, évidemment. Je vais essayer de faire le tour du bonhomme. Et peut-être que ça vous donnera envie d'en savoir un peu plus. Dans l'impasse au loup, en fait, dans la ville de Delémont, parce que c'est bien là, ça s'appelle la porte au loup. Il reste encore deux anciennes portes du Moyen-Âge, la porte de Porrentruy et la porte au loup. Dans l'impasse au loup, vit un homme mal dans sa tête. Il est jeune, solitaire, abandonné. Difficile de l'ignorer, délicat d'évoquer son cas, impossible de se taire à son sujet. Alors on en parle. Les mots ne condamnent pas, ils essaient juste de donner un sens à ce destin égaré dans la ville, à nommer une souffrance incompréhensible. Alex, c'est le nom du garçon plein d'avenir qu'il fut autrefois et dont on se souvient. D'avoir été ainsi baptisé, le malade semble encore appartenir à la communauté humaine. Là, je passe au jeu. Je ne peux pas discuter avec moi. Deux mots lâchés, et déjà les tours montent, la machine s'emballe, le ton prend l'ascenseur, la situation échappe à tout contrôle. Tout de suite, je m'emporte, je m'énerve, je sors de mes gonds. Je ne sais pas argumenter posément. La logique m'ennuie, mon pouvoir de conviction se dissout dans la nullité du discours. Je débite tout raisonnement en tranches de salami. Je fonce, je coupe, j'agresse. J'assène. Je monologue à tour de rôle, je ne m'écoute pas. J'en ai ma claque de soliloquer avec un fantôme. La chambre d'écho de ma solitude résonne de répliques insensées. Elle est saturée de redites. Je connais par cœur toutes mes arguties. J'anticipe la somme des histoires ressassées. Tous ces navrants plaidoyers d'auto-apitoiement. Tous les prétextes invoqués pour fuir ma responsabilité, les multiples fables inventées de toutes pièces afin de passer outre le miroir accablant de la réalité. Mais comment faire autrement que monologuer quand on ne s'écoute pas? Enfant déjà, je m'étais inventé un double, un jumeau hyper compréhensif. Je l'avais baptisé Super Axel. J'étais bien conscient de représenter le minus Alex. J'ignorais qu'en enclenchant ce processus de fuite dans l'imaginaire, j'allais engendrer l'ombre maudite qui ne me quitterait plus. Je m'entendais merveilleusement bien avec Super Axel. Il accomplissait avec un brio et une facilité déconcertante tous les exploits dont je me révélais incapable dans la réalité. Je ne pouvais plus me passer de lui. Ce fut ma première dépendance. Peut-être pas la plus toxique, mais la plus profondément vitale. Ensemble, nous avons exploré la Terre entière, de ses plus hauts sommets aux gouffres les plus profonds ouverts au cœur des océans. Rien ni personne ne nous résistait. Nous étions unis comme les doigts de la main. Jusqu'au jour où Super Axel m'a répliqué qu'il n'était plus d'accord de jouer avec moi, que tout ça, nos conquêtes, nos explorations, c'était des gamineries. Des inventions de petits garçons frustrés, immatures, et qu'il était grand temps de passer à autre chose. Autre chose. J'étais atterré, incapable d'imaginer une félicité plus enviable que celle que nous vivions quotidiennement, Super Axel et moi, Minus Alex. Je pleurais à chaudes larmes, totalement effondré. Super m'a expliqué mon cas, patiemment, posément, sans s'énerver, avec des mots, les miens, que je comprenais enfin. J'ai dû me rendre à l'évidence, nous avions grandi. Ainsi s'opéra la déchirure. La mer. Alex se souvient, flash mental. Sa mère l'attend, debout dans la cuisine. Il se voit, lui, poussant la porte qui entre, l'air pas très rassuré et la tête passablement brouillée. Rien de nouveau, en fait. Et elle, sentinelle exaspérée, justicière à bout de nerfs, qui l'attend. C'est tôt le matin, il sort du poste de police. On l'a trouvé gisant sur le trottoir devant la gare la nuit précédente. Le temps de se faire retaper aux urgences et de balbutier une déposition vaseuse au poste, le voici de retour au foyer. Et il sent que ça va chauffer. S'expliquer, se justifier, parler de mauvaise cam, de mêler à un mauvais alcool. Non, pas une overdose, non, juste un truc frelaté de la marchandise douteuse. La faute à pas de chance ou à pas d'autre choix dans ce bled pourri. Il s'apprête à raconter tout ça à sa mère, peut-être même à s'excuser pour tout le tracas qu'il lui cause, mais les mots ne viennent pas, coincés dans la gorge. Sa mère ne crie pas. Elle dit seulement, d'une voix calme, posée, une voix qu'il ne lui connaît pas. « Qui es-tu, Alex ?» Juste ça. « Qui es-tu, Alex ?» Comme si elle et lui venaient de faire connaissance. Deux inconnus réunis par le hasard, se tenant face à face dans une cuisine inconnue, ils bredouillent quelque chose comme « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» ou « Je comprends pas la question » ou « Tu devrais le savoir qui je suis depuis le temps que tu m'as pondu dans cet univers de merde » et il se souvient même plus s'il a répondu. Et sa mère, toujours de ce ton glacial d'étrangère, poursuit implacable, impitoyable. « Assieds-toi et écoute-moi. » Il obtempère, petit garçon sidéré. « Sache-le, je ne vais pas te laisser bousiller ta vie par cette saloperie de drogue que tes crétins de copains te fourguent tant et plus, ni te laisser encore longtemps me pourrir la mienne par toutes les conneries que tu accumules depuis tes 12 ans. 12 ans. Tu m'entends ? Belle précocité, hein ? La seule, d'ailleurs, dont tu as été capable. Alors voilà. Soit tu changes, tu te reprends en main, tu relèves la tête, soit tu dégages. Me suis-je bien fait comprendre ? Est-ce clair ? Il est sur le cul. Mais qu'est-ce que sa mère a sniffé ou avalé comme substance pour ainsi lui tenir tête ? Un langage pareil, de sa part, dégagé. Le ciel lui tombe sur la tête. « Ok, t'emballe pas !» parvient-il à marmonner sans grande conviction. Il se rend bien compte qu'il ne s'agit pas d'une engueulade habituelle faisant partie de la routine de leurs affrontements quotidiens. Un point de non-retour a été atteint. Les mots de sa mère l'ont traversé comme une lame de glace. Il y aura un avant et un après à ces mots-là. Et l'après vient de commencer. Un après dans lequel sa minable réplique « Ok, t'emballe pas !» ne pèse pas un clou, ne vaut pas tripette. Il lui faut réagir. Alex se lève, se dirige vers le réfrigérateur, choisit au hasard un yogourt pour se donner une contenance, prend une petite cuillère dans le tiroir de la table, se rassoit et entreprend d'avaler ce qui lui semblait du plâtre liquide. Sa mère, toujours debout, les bras croisés sur sa poitrine, le fixe comme un corps étranger, un microbe à expulser, un animal égaré qui se serait trompé de terrier, un martien atterri par mégarde dans sa cuisine. Il n'y a pas la moindre ébauche de compréhension, pas le moindre début de volonté de dialoguer, la plus petite trace de pardon ou de tendresse dans son regard. Juste l'évaluation, pesée en tonnes de fatigue et d'exaspération, du poids d'emmerdement de toute nature que représente ce garçon ingérable, drogué, agressif et mythomane. Et de la nécessité absolue vitale de se débarrasser au plus vite d'un tel boulet, avant qu'il ne l'entraîne au fond du trou. Il en va de sa survie à elle. Alex se trouve assis en équilibre périlleux sur le fléau d'une balance, un gramme de mauvaise conduite supplémentaire, gramme inévitable dans le cours fatal que sa vie a pris, et il bascule dans le vide du haut de son plateau. Et tout a basculé ce matin-là. La lettre, dans ce petit flash-là, il y a un élément réel, c'est que une des voisines s'est préoccupée de lui et a envoyé réellement une lettre aux services sociaux. C'est Axel qui parle. J'ai été convoqué au bâtiment des services sociaux, rue de l'Espoir numéro 1. Ça, c'est vrai. Delémont, c'est la rue de l'Espoir numéro 1, les services sociaux. Boulevard du Désespoir conviendrait mieux, qui abrite d'autres institutions dans plusieurs hautes écoles, comme s'il n'y en avait de basses. Une plainte à mon sujet, apparemment. Sur la porte vitrée de l'entrée est collée une grande affiche très visible. Son slogan me fait grincer des dents. Devenez une pointure. Un pote bien intentionné m'a signalé qu'une voisine de l'impasse au loup a effectivement envoyé une lettre me concernant aux 10 services si peu soucieux. Comment il le sait ? Mystère. Dans une petite ville, la rumeur court plus vite que le bonheur. Ça m'intéressait, je suis donc allé faire un tour. À chaque fois que je me rends dans leurs locaux, si peu accueillants, je pousse quelques cris et imprécations utiles, c'est mon mode d'expression, et ils sont bien obligés d'en tenir compte. Cette fois-ci, à ma demande très respectueuse et motivée, l'assistante sociale, très inquiète pour l'intégrité du mobilier et la paix sonore de son bureau, m'a donné lecture de cette lettre. J'ai écouté poliment, presque ému. Je lui en ai demandé une copie, tout aussi poliment, preuve que je suis capable de modérer le ton. L'air étonné, mais rassuré, elle me l'a remise sans poser de conditions, ce qui était exceptionnel. D'ordinaire, chacune de mes revendications, parfaitement motivées et argumentées, fait l'objet d'un marchandage, du troc. Ici, on n'obtient rien sans offrir quelque chose en retour. En général, de ma part, il s'agit de moins crier. La dame ne va pas jusqu'à exiger pas crier du tout. Elle connaît ses limites et les miennes. Ne rien jeter par la fenêtre, cesser d'arpenter les rues de la cité en vitupérant, vitupérer, elle a de ces mots, à haute voix, alors que de nos jours, n'importe quel couillon normal peut proclamer à qui ne veut pas l'entendre tous les détails de sa vie privée, en pleine rue, en beuglant dans son portable ou dans l'une de ses multiples gadgets issus du bordel électronique de communication obsessionnelle, etc. J'ai promis de ne pas fracasser les vitres de ma voisine en guise de représailles contre son intrusion dans ma vie privée. Quelle voisine ? S'est inquiétée l'assistante soucieuse qui avait soigneusement caviardé tous les indices d'identification sur sa photocopie et estimait que la confidentialité de l'expéditeur ainsi protégée. J'ai haussé les épaules, pas besoin de jouer les détectives futés. Hein ? Dans cette vieille ville qui se désertifie à grande vitesse, les voisins et voisines ne courent pas les rues. Pas sorcier de deviner qui ça peut être. Et si je me trompe de cible, ça donnera toujours du boulot au poseur de vitres. Bon, la voici cette lettre, caviardée par les soins des SSSS, services sociaux si peu soucieux de mon sort. Et je doute d'ailleurs qu'on réponde quoi que ce soit à cette brave citoyenne. Le 27 novembre, service social régional, rue de l'Espoir, un monsieur, étant voisine de monsieur Alex Caviardé, je me permets de vous écrire pour vous informer de l'état de ce dernier. Chaque jour, mais surtout chaque nuit, tout le quartier subit ces crises intempestives de rage et de désespoir. Il s'en prend aux démons qui le hantent, faisant parfois des dialogues, en prenant des voix tantôt aiguës, tantôt graves. Cela peut durer un quart d'heure à une demi-heure et se répéter plusieurs fois à intervalles d'environ 2 heures. J'ai l'impression qu'il lui arrive aussi de tout fracasser dans son appartement. Mettra-t-il un jour le feu ? Les questions que je me pose sont les suivantes. Est-il régulièrement suivi par un psychiatre ? Un si grand malade ne devrait-il pas être accueilli dans une structure où il serait pris en charge à plein temps ? Avec des activités de sport, d'art-thérapie, que sais-je encore. La division psychiatrique de l'hôpital ayant été fermée il y a peu de temps, Ça, c'est vrai. Ne faudrait-il pas chercher ailleurs un endroit mieux adapté avec du personnel faisant preuve d'empathie à son égard, car ce jeune homme souffre également d'une très grande solitude et d'un désœuvrement total. Pour le bien de M. Alex Caviardet, j'espère que mes remarques seront suivies d'effet. Recevez, monsieur, mes meilleures salutations. Une fois revenu chez moi, dans mon foutoir bordélique, en fait, il y règne mon ordre, ordre qui ne regarde personne, j'ai relu la lettre à tête reposée. Encore une expression à la con, ma tête n'est jamais reposée. Et je l'ai trouvée très intéressante. D'abord parce qu'elle prouve que quelqu'un, au moins, se penche sur mon cas, s'intéresse à moi et va jusqu'à s'inquiéter pour mon avenir. Même si c'est uniquement dû au fait que la proximité de ma présence lui fout un peu les boules, cette dame a usé de l'encre, du papier et de son temps pour alerter les soi-disant responsables de mon destin. Et ces mots touchent juste rage et désespoir. Bien vu. Mes cris intempestifs sont bien de cet ordre-là. Et rien à redire non plus à propos des démons qui me hantent. J'en connais au moins un, mais peut-être s'agit-il d'un fantôme, et je le hais au moins autant qu'il me vampirise. Non, madame, je ne fracasse pas tout dans mon appartement. Pas tout. Par contre, l'idée de mettre le feu à tout ça, un jour ou l'autre, est excellente. Excellente. Je vous élève d'ores et déjà au rang d'inspiratrice, d'instigatrice, et quoique irresponsable, je ne manquerai pas de signaler votre judicieuse suggestion. Pour le reste, cette excellente dame aux excellentes idées est complètement à côté de la plaque. La psychiatrie se fout royalement de mon cas. D'ailleurs ici, dans cette petite ville peuplée de petits bourgeois paranoïaques, la psychiatrie est devenue à ce point folle qu'on l'a dissoute. Et qu'elle s'est fait la malle. On a prié tout le monde, soignés et soignants, d'aller faire les fous ailleurs. Où ? On s'en tape ailleurs, le plus loin possible d'ici, du balai. Moi, on me laisse mijoter dans ma marmite. Quand la cocotte minute explosera, on mettra l'incident mineur sur le compte de la fatalité. Tous les acteurs de la mafia soignante et administrative sont déjà fin prêts à se rejeter les uns sur les autres, la totalité des éclaboussures et des dégâts collatéraux dus à l'explosion. Tous coupables, aucun responsable. Lumineuse formule datant, me semble-t-il, du scandale du sang contaminé en France sous la houlette de Tonton. C'était finement trouvé. Ça peut resservir quand on veut. La preuve. Je me dois dorénavant de ne pas décevoir ma bonne samaritaine, mon ange de proximité. Je me sens regardé avec bienveillance. Par moments, dans ces cités catholiques, il y a des moments de folie collective autorisée. C'est le carnaval. Et Alex supporte assez mal ça. Alors il en parle. Mardi gras. Cette nuit, tous vont masquer, comme moi. Et mes fantômes du jour me persécutent sans visage. Et moi, face nue, cheveux au vent, sale comme un porc dans sa soue, je me sens protégé sous mon masque de peau. Il pleut une neige de papier flocons colorés Disneyland que je suce avant de les recracher à leur face dissimulée de faux jetons, à leur gueule obtuse de carton. Et les masques grimaçant de me repousser, de me frapper, parce que je ne joue pas le jeu. Leur jeu, je gâche la fête, je casse l'ambiance avec ma tête de travers et mes yeux de fou rivés en face de leur trou. Je fais le con dans les confettis, fausse note au sein de la cacophonie, en cette fête annuelle du défoulement rigoureusement programmée. Oh, carnaval en tête! Charivari dans mes synapses, que ton désordre soit sanctifié. Mardi gras, mercredi maigre. Lendemain de carnaval, ce matin, je me suis éveillé dans un nid de farine. un vaste creux douillet tapi de cendres soyeuses que je filtrais rêveusement entre mes doigts crasseux. J'étais à la fois déçu et ravi qu'elles ne soient pas les miennes. Ce matin, étouffé sous des giboulées de plumes fondantes, je me suis éveillé au beau milieu de la rue, couché entre des congères de confettis mouillés et le caniveau gargouillant, déchet parmi les déchets, ordure de dimensions inquiétantes aux yeux malins des corneilles, dans le tintamarre obstiné, cacophonie purificatrice des balayeuses municipales. Ce matin, oisillons roulés en boule, chiffon de laine détrempé, j'ai ouvert les yeux et écarté les bras comme des ailes. Être bon. Il y a des jours où je ferais n'importe quoi pour être bon. Ce doit être terriblement agréable de se dire qu'on est bon. Peut-être pas foncièrement bon, non, mais bon à ce moment-là, à cet instant où on le désire le plus ardemment. Mon problème est que je suis, et pour le coup foncièrement, mauvais. Oui, mauvais. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est juste un constat. Je n'éprouve du plaisir qu'à faire le mal. J'adore humilier, dominer, ricaner, me moquer, réduire mes semblables en galettes, en carpettes, en récipients de mes humeurs. Je jouis en essuyant mes semelles cloutées sur leurs visages, en écrabouillant leurs tronches de petits seins confits. Aujourd'hui, fête exceptionnelle, j'aspire à être bon. Oui, ou à défaut, à paraître bon. Peu importe, c'est le résultat qui compte. La poudre aux yeux, l'illusion, le masque, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je manque d'expérience, de pratique, de savoir-faire. Il y a si longtemps que je suis foncièrement mauvais. Par quel bout commencer ? Les porcs et les démons. C'est dans la Bible. Les démons sortirent alors du possédé et entrèrent dans les cochons. Marc 5, 13. Ici, c'est page 77. Je me rappelle une histoire tirée de la Bible que le prof de catéchisme nous racontait à l'école. Je devais avoir 10-12 ans. Elle m'avait particulièrement frappé. Un homme, possédé par des démons, habitait dans un cimetière. Il squattait des tombeaux, sortes de grottes taillées dans la roche. Une ville se trouvait non loin de là. Ses habitants redoutaient les colères et les égarements du possédé. Souvent, ils le liaient, l'enchaînaient et le chassaient. Mais l'homme parvenait toujours à se libérer de ses liens et de ses chaînes, et il retournait dans ses abris funéraires. Il criait, il se mutilait avec des silex tranchants. Ça se passait à côté d'un lac, dénommé Mer dans l'histoire pour impressionner l'auditeur, bordé de hautes falaises. En pleine campagne de miracles successifs, Jésus a traversé la mer et débarque dans cet endroit sinistre. Il aperçoit le malheureux, interpelle le mauvais esprit qui l'habite. Celui-ci avoue s'appeler Légion, car il est multiple. Les démons intérieurs supplient le Messie de ne pas les chasser hors du pays. Plutôt que l'exil, ils préfèrent quitter l'homme pour un autre être vivant. Et comme il y a tout proche un immense troupeau de porcs, ils disent « Envoie-nous dans les cochons ». Jésus autorise le transfert. Les mauvais esprits entrent dans les pourceaux. Plus de 1000 porcs se précipitent alors du haut d'une falaise et se noient dans la mer. Alors qu'ils devraient se sentir délivrés et manifester leur reconnaissance, les témoins sont terrifiés par ce miracle. Ils supplient Jésus de quitter au plus vite le pays. L'homme guéri, lui, veut suivre son sauveur. Demande refusée. Jésus souhaite qu'il reste dans la région et lui fasse en quelque sorte de la publicité. Puis le Messie s'en va et retraverse le lac en bateau. Ce qui me frappait, c'était que des esprits puissent habiter en nous, qu'ils nous investissent, qu'ils nous possèdent et qu'ils sont puissants. Mais également qu'on peut les expulser par miracle. Depuis, j'ai réalisé que moi aussi, je suis possédé, même si plus personne n'utilise un terme aussi vieillot qui fait rigoler les savants. Mon démon se nomme Axel, À cause de lui, je crie, je suis violent, on me craint. Moi aussi, on m'attache. Pas avec des cordes ou des chaînes, non. Seulement avec des médicaments, des liens chimiques invisibles, desquels il n'est pas facile de se libérer. Cet appartement social, l'impasse au loup, c'est mon cimetière, c'est mon tombeau. Aucun Jésus en vue. Et de tous les porcs qui m'entourent, aucun n'accepte d'accueillir mon démon. Voilà. C'est bon, hein?